Radio Prague, les informations. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague, une actualité dont voici les principaux titres. 14 000 personnes ont signé la pétition pour la démission du député communiste Zdeněk Ondráček. Cinéma, Catherine Deneuve sera mise à l'honneur prochainement à Prague pour l'ouverture du festival Febiofest. Et puis enfin, sport en football, le Sparta Prague a limogé son entraîneur italien. Quelques 14 000 personnes ont donc signé la pétition réclamant la révocation du député communiste Zdeněk Ondráček de ses fonctions de président du comité parlementaire en charge du contrôle du service d'inspection des forces de police. L'information a été communiquée par les organisateurs des manifestations qui se sont tenues dans de nombreuses villes du pays lundi soir. Ces organisateurs estiment à 30 000 le nombre de personnes qui, au total, ont manifesté leur mécontentement. La collecte de signatures se poursuit et la pétition sera déposée à la Chambre des députés ce mercredi. Les gens ne veulent plus avoir honte de leur représentation politique et ne veulent pas que les erreurs incontestables du passé se répètent, ont expliqué les organisateurs. Pour rappel, ces manifestations se sont tenues après l'élection vendredi dernier par la Chambre des députés de Zdeněk Ondráček en fonction donc de président du comité parlementaire en charge du contrôle du service d'inspection des forces de police. Une équipe de chercheurs tchèques du laboratoire spécialisé dans les maladies rares de l'Université Charles et de l'hôpital universitaire de Prague a découvert un gène responsable d'une grave maladie de la cornée. Dans un communiqué publié lundi, les deux institutions précisent qu'il s'agit d'une mutation du gène GRHL2, un gène qui peut provoquer une dystrophie cornéenne postérieure polymorphe, et oui, une maladie qui nécessite dans certains cas une greffe de la cornée et peut même mener à la cécité. La découverte des chercheurs tchèques permettra surtout d'améliorer le diagnostic compliqué jusqu'à présent par le fait que les médecins ne connaissent que deux gènes liés à cette maladie rare, une maladie qui touche en Tchéquie un nombre important de patients comparé aux autres pays. Cinéma, Catherine Deneuve sera à Prague le jeudi 15 mars où elle se verra remettre un prix à Christiane pour l'ensemble de son œuvre dans le cadre de l'ouverture du festival du film Febiofest. L'artiste tchèque Daniela Kolářová sera elle aussi récompensée à cette occasion. L'information a été communiquée ce mardi par les organisateurs du festival lors de la conférence de presse de présentation de la 25e édition. La comédie britannique The Party de Sally Potter sera projetée en ouverture. Parmi les autres invités de marque du festival figure également le réalisateur français Arnaud Desplechin qui présentera son film Les fantômes d'Ismaël, un film qui a été tourné en partie à Prague. Un mot de football, Andreas Tramaccioni n'est plus l'entraîneur du Sparta Prague. L'Italien a été démis de ses fonctions, a annoncé le club sur son site internet ce mardi, et ce deux jours après le résultat nul, un but partout concédé à domicile contre Brno à 11 journées de la fin du championnat. Le Sparta, où évolue, rappelons-le, l'ancien international français Rio Mavuba, occupe une décevante 5e place au classement avec 14 points de retard sur le leader, le Viktoria Plzeň, très loin donc de ses objectifs annoncés en début de saison. Arrivé au Sparta en mai dernier et très critiqué, Andreas Tramaccioni n'a jamais convaincu les exigeants supporters pragois. Un mot de météo pour finir. Après une journée de mardi marquée par des chutes de neige un peu partout dans le pays, c'est la pluie remontée du mercure aidant qui sera de mise là aussi sur la majeure partie du territoire ce mercredi. Mercredi qui est le jour de la fête des Tomas. Thomas, bien entendu en français. Le retour du soleil est annoncé à compter de jeudi. Quant aux températures, elles varient entre 4 et 8 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Quel est le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. C'est avec le même plaisir que l'on retrouve maintenant Magdalena Rosinkova pour la suite du programme. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et merci d'écouter Radio Prague. Merci aussi à Guillaume Nerguet pour son bulletin d'information. Vous le savez, les Tchèques ont été plusieurs dizaines de milliers à descendre dans la rue lundi en signe de protestation contre l'élection controversée d'un député communiste aux fonctions de président du comité parlementaire chargé du contrôle de la police. Nous avons suivi les protestations, les détails dans un instant. Place ensuite sur Radio Prague à deux femmes, Alenka Horniaková-Sivad, écrivaine et peintre tchèque installée en France. Elle expose actuellement sa peinture à Plzeň. Et puis nous écouterons le témoignage d'une jeune Tunisienne, Elina Ben Meni, blogueuse et militante des droits de l'homme. Elle est l'invitée du festival du film documentaire One World, Jeden Svět. Très bonne écoute à toutes et à tous. La Tchéquie n'est pas la Russie, on en a marre, les communistes sont des assassins. Autant de slogans qui ont été scandés par plusieurs dizaines de milliers de manifestants réunis lundi soir dans 14 villes tchèques. Ces protestations massives, remarquées également par le journal britannique The Guardian, ont été organisées pour dénoncer l'élection de l'ancien policier communiste au passé controversé, Zdeněk Ondráček, à la tête de la commission parlementaire en charge du contrôle des forces de police. À Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové ou Pardubice, bref, un peu partout dans le pays, les Tchèques sont descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement face à l'attribution d'une fonction parlementaire importante à un ancien flic communiste, expression qui résume bien le parcours de Zdeněk Ondráček. Pour rappel, ce député communiste qui, à l'âge de 19 ans, participait à la répression brutale des manifestations anticommunistes de janvier 1989 à Prague, engagement et qu'il n'a d'ailleurs jamais regretté, a été, aussi paradoxal que cela puisse paraître, élu président de la commission parlementaire en charge du contrôle du GIPS, le service d'inspection des forces de police. Discuté depuis la fin de l'année dernière, la candidature de Zdeněk Ondráček puis son élection à ce poste il y a quelques jours ont suscité une vive critique d'une partie de la société. Parmi les institutions qui ont exprimé publiquement leur indignation figurent par exemple l'école de théâtre de Brno, la YAMU, ou encore l'université Masaryk de cette même ville. Pour les professeurs universitaires de Brno, la nomination de M. Ondráček à son nouveau poste représente, je cite, « une relativisation et réhabilitation du passé communiste criminel ». Fin de citation. Scandalisé lui aussi par l'élection de Zdeněk Ondráček à la tête de la commission parlementaire, un groupe de jeunes pragois décide alors de convoquer via Facebook une manifestation au centre de la capitale. Finalement, cette protestation a rassemblé 10 000 personnes sur la place Venceslas. On écoute Lucie Kohoutová, une des organisatrices du rassemblement pragois.
La nomination d'un tel homme avec un tel passé à ce poste nous paraissait très symbolique. Nous avions l'impression d'avoir un mot à dire sur cela et nous l'avons fait, même si auparavant nous ne nous étions encore jamais engagés publiquement.
Très autres villes tchèques se sont jointes à ce mouvement de protestation. Les manifestants ont déployé des banderoles avec des slogans dénonçant la politique du Parti communiste avant et après la révolution de velours. Certains brandissant des matraques en papier pour rappeler les représailles auxquelles a participé Zdeněk Ondráček. Les habitants de České Budějovice ont profité de l'occasion pour allumer des bougies au pied du monument aux victimes du communisme. Un peu partout, les manifestants ont critiqué le passé du premier ministre et chef du mouvement Ano Andrej Babiš, soupçonné de collaboration avec la police secrète communiste, la STB. De nombreuses personnalités de la vie publique, dont les candidats malheureux à la présidence de la République, ont participé au rassemblement sur la place Venceslas. Parmi eux, l'ancienne présidente de la Chambre des députés, Miroslava Němcová, du parti civique démocrate ODS, dans l'opposition.
Je suis agréablement surprise par le nombre de gens qui se sont rassemblés ici. Ils sont conscients de la gravité de la situation. Ils ont compris qu'il ne suffisait pas de râler chez eux devant l'écran de télévision, mais qu'il fallait aussi protester dans la rue.
Les choses ne bougeront pas tout de suite, car Miloš Zeman, Andrej Babiš, les communistes et le parti ANO ne quitteront pas le pouvoir aussi vite. Mais il est important que les citoyens se fassent entendre, qu'ils disent à haute voix que la liberté leur tient à cœur, qu'ils ne veulent pas vivre dans un pays gouverné par des agents de la STB et des flics agressifs. Si les gens expriment leur mécontentement, on aura un espoir de changement.
Quelques 14 000 personnes ont signé la pétition réclamant la révocation du député Zdeněk Ondráček de ses fonctions de président de la commission parlementaire chargée du contrôle des forces de police. Les organisateurs de la manifestation pragoise comptent la remettre au député symboliquement le mercredi 7 mars, le jour de l'anniversaire du premier président de la Tchécoslovaquie indépendante, Tomáš Garrigue Masaryk. Lenka Horňáková-Sivád, écrivaine et peintre. Née à Prostějov, en Moravie, elle vit en France depuis une vingtaine d'années avec sa famille. Si aujourd'hui elle attire l'attention par son travail de romancière, écrivant contre toute attente en français, c'est la peinture qui a toutefois été longtemps sa marque de fabrique. Du 6 au 29 mars, la Galerie de la Maison de l'Europe à Plzeň propose une exposition de son travail intitulée « Fragments de Bretagne ». Lenka Horňáková-Sivád, on a dit plus au micro d'Anna Kubišta.
C'est une exposition qui est née lors d'un séjour en Bretagne, comme le titre l'indique si bien. Et comme on ne peut pas effectivement contenir toute Bretagne dans une exposition, parce que c'est un pays extrêmement intéressant, profond, varié et riche, bah, ce n'est que des petits fragments qui sont restés dans ma mémoire, un peu inscrits dans la peau, parce que j'ai séjourné pratiquement 2 mois. Je pensais que ça devait être une résidence littéraire. Et en fait, j'ai passé mon temps à promener, à marcher, à regarder. Et de temps en temps, je me disais, mais comment fait-on pour saisir cette lumière? Comment fait-on pour saisir cette vague? Comment on rend compte de ce qu'on vit, enfin, des sensations? C'était vraiment très, très beau. J'étais séduite, absolument séduite par ce pays, par ce coin de la France. Et quand je suis rentrée chez moi dans l'atelier, bah, tout d'un coup, j'avais très envie de matérialiser en fait tout cela. Et donc, il en est sorti des pastels. Et des encres de Chine. Et puis, je crois que c'était vraiment le bon moment pour les présenter.
Je voulais vous demander justement comment vous travaillez sur vos peintures, si c'est à l'ancienne, en vous installant sur le lieu de votre choix ou avec des photos, mais vous avez l'air de dire qu'en fait, vous engrangez les impressions et après, c'est dans l'atelier que vous travaillez.
J'ai l'impression qu'il y a des motifs qui sont très beaux à être photographiés, il y a des motifs qui méritent d'être saisis peut-être par les mots, et il y a des motifs qui me viennent, qui reviennent plutôt comme en image.
C'est des souvenirs.
Comme souvenirs, oui, ou quelque chose de assez précis et imprécis à la fois. Et justement, dans la peinture, moi, j'ai toujours du mal à mettre les mots. C'est vraiment le domaine où je suis muette dans le sens où c'est les mains qui travaillent, c'est ça. Ça passe pas du tout par le même canal que l'écriture. Tout d'un coup, je dirais que c'est même notre cerveau qui se met en route, ou presque en sommeil, pour le geste, pour une rencontre avec la matière. Voilà, c'est vraiment très physique finalement la peinture, et c'est le toucher, c'est la matière, c'est d'avoir les mains sales, c'est d'être, pour moi en tout cas, dans mon atelier où je ne range jamais et où je sais où se trouvent des choses. Voilà.
Vous avez travaillé aussi sur des paysages de Provence auparavant, là c'est sur la Bretagne. Est-ce que vous avez abordé aussi les paysages de votre pays d'origine, la République tchèque?
Non, ça, je pense que c'est quelque chose qui reste encore probablement à redécouvrir ou à rendre à la lumière, mais je ne sais même pas, parce que j'ai parfois l'impression que des choses vraiment terriblement intime, comme les paysages qui nous parlent. Moi, j'adore quand j'arrive dans ma ville natale, d'aller promener dans la campagne, de marcher des heures, etc. Je me régale et je ne sais pas si j'ai très envie de partager ça, à vrai dire. C'est quelque chose d'absolument égoïste, je suis d'accord. Mais voilà, ça va ressortir à un moment donné, peut-être, et je ne sais pas par quel moyen, et je vais me laisser surprendre.
Vous avez la double casquette, c'est ce que je disais, hein, de peintre, d'écrivain. Qu'est-ce que vous trouvez dans la peinture justement qui vous manque dans l'écriture et inversement ?
Pas de comparaison, pas de choix, parce que vraiment cette très nette impression que c'est pas le même cerveau qui fonctionne, pas la même personnalité, c'est autre chose. Je pense que parfois je peux dire exactement la même chose, qu'on le trouve ou qu'on le trouve pas, je m'en fiche pratiquement, mais ça vient de l'intérieur. Je ne peux pas faire quelque chose qui, oui, je dis ce que j'ai à dire et je peins ce que j'ai à peindre. Ça sonne comme ça un peu banal, mais j'ai pas autrement comment l'exprimer.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague. Jusqu'au 14 mars se déroule dans la capitale tchèque et en région le festival du film sur les droits de l'homme One World. Parmi les invités de cette 20e édition, Lina Ben-Meni, blogueuse et cyberactiviste militante des droits de l'homme qui a participé en 2011 à la révolution tunisienne. À Prague, elle est membre du jury Václav Havel dans le cadre du festival Anna Kubishta l'a rencontrée.
Lina Ben-Meni, bonjour.
Bonjour.
En tant qu'activiste engagée, vous avez pris une part très active donc à la révolution en Tunisie il y a quelques années. Que vous inspire le fait d'être membre d'un jury qui porte le nom de Václav Havel ?
Tout d'abord, je suis très fière de faire partie de ce jury. Donc, quand on parle de Václav Havel, on parle de révolution, de changement. Et voilà. J'estime que j'ai participé un peu au changement dans mon pays et voilà, c'est une consécration pour moi d'être là, de faire partie de ce jury, même si je pense que voilà, nous avons fait un tout petit pas sur le chemin du changement de la révolution et que la bataille et le combat doivent se poursuivre. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là, de faire partie de ce jury.
Ce que vous dites, c'était une de mes questions. Est-ce que la Tunisie est, selon vous, aujourd'hui une démocratie ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une démocratie ?
Quoi qu'on parle de la Tunisie comme une démocratie, comme un pays qui a réussi sa transition démocratique et qui est un modèle pour les autres pays du dit printemps arabe, je pense qu'on a juste fait un tout petit pas, on s'est débarrassé du dictateur, mais le système est toujours en place. Il y a des tentatives de la part des anciens du régime pour reprendre le pouvoir, donc il faut rester vigilant, il faut travailler pour changer cette situation. Malheureusement, aujourd'hui, je vois une petite régression même par rapport aux droits humains et les libertés individuelles et collectives. Donc aujourd'hui, on entend parler de violations des droits humains. Je travaille beaucoup sur ça. Et donc, il faut continuer et poursuivre le chemin.
Que faudrait-il justement, structurellement peut-être, pour que le pays devienne une vraie démocratie ? On sait bien que les démocraties ne sont pas parfaites, hein, mais pour que, disons, qu'on aille vers un mieux. Qu'est-ce qu'il faudrait changer peut-être concrètement en Tunisie ?
Je dirais que malheureusement, la révolution a été faite, bon, heureusement, elle a été faite surtout par des jeunes qui continuent encore à être très actifs pour changer les choses. Aujourd'hui, en Tunisie, il y a beaucoup de mouvements de jeunes qui travaillent horizontalement et je pense que ça, c'est très important. Ça, c'est une nouvelle forme d'organisation qui est très efficace pour contrecarrer les forces rétrogrades qui ont lutté et qui luttent contre l'obscurantisme en Tunisie. Mais je pense que voilà, ces mouvements doivent avancer et essayer d'avoir le pouvoir quelque part pour changer les choses. Un des grands problèmes en Tunisie, c'est la corruption. Malheureusement, ça devient de plus en plus disséminé partout. Donc voilà, je pense que là, c'est l'une des luttes les plus importantes en Tunisie parce que ça affecte tous les secteurs. Et ça ne nous permet pas d'avancer.
Et qu'en est-il pour le coup de la condition des femmes en Tunisie à l'heure actuelle ? Est-ce qu'elles se portent bien, mieux, moins bien ?
Ben, je dirais que la femme tunisienne ou les femmes tunisiennes sont relativement privilégiées par rapport aux femmes dans le monde arabe en général. Juste après le départ de Ben Ali, avec la montée de l'islamisme, il y a eu des tentatives de se retourner contre les droits déjà acquis par les femmes tunisiennes. Mais les femmes tunisiennes ont été présentes et ont dit non à ces forces rétrogrades. Et donc aujourd'hui, ça avance côté droit des femmes. Donc on a de nouvelles lois pour les femmes qui garantissent l'égalité. Par exemple, on avait un circulaire qui empêchait les femmes de se marier avec les non-musulmans. Donc maintenant, ce circulaire a été éliminé et ça, c'est quelque chose de bien. On a une nouvelle loi contre les violences faites aux femmes. Le 10 mars, il y aura une marche qui appelle à l'égalité dans l'héritage. Et donc, ça avance. Mais je tiens à dire que c'est bien d'avoir tant de lois en faveur de l'égalité des sexes, mais il faut que ça soit aussi concrétisé sur le terrain, parce que voilà, les lois, c'est important, mais voilà, la vie réelle, c'est aussi important. Donc il y a beaucoup de travail à faire côté sensibilisation du peuple tunisien aux questions de l'égalité.
Est-ce que vous diriez que finalement la jeune génération est plus ouverte à ce genre de thématiques, notamment par exemple, j'imagine, dans les rangs de tous ces jeunes qui ont fait la révolution, ou c'est pas clair?
Je dirais que c'est pas vraiment clair. Moi, je fréquente surtout les activistes, les défenseurs et les défenseuses des droits de l'homme, mais on parle de ça, on discute de ça, on est pour l'égalité, mais la société tunisienne reste toujours une société conservatrice, patriarcale. Donc, il faut travailler pour changer ça. Je pense que c'est lié à l'éducation, à la culture.
Et par exemple, ce qui s'est passé récemment, la prise de parole de femmes dans le monde, alors sur le harcèlement, etc., est-ce que c'est quelque chose qui a eu un écho en Tunisie ou c'est quelque chose qui est très occidental selon vous ?
Non, même en Tunisie, il y a beaucoup de femmes qui ont suivi la campagne MeToo et qui ont dénoncé des harceleurs. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on fait ça en Tunisie. À chaque fois où il y a un cas grave d'atteinte aux femmes, on essaye d'en parler. Donc ça commence avec la société civile et puis ça s'amplifie peu à peu. Et donc on a suivi la campagne MeToo et les femmes tunisiennes ont commencé à dénoncer des cas d'harcèlement.
Votre parcours quand même force l'admiration, hein. Enfin, vraiment, quand on regarde un peu votre biographie, vous avez une force de caractère assez incroyable, puisque vous avez pendant des années aussi souffert d'une maladie auto-immune très grave qui vous faisait souffrir, qui a causé le fait que vous avez dû avoir une transplantation de rein. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous a finalement presque aidé, ou ça a contribué finalement à votre engagement politique?
L'expérience de la maladie a été très importante dans mon parcours. D'ailleurs, j'ai écrit un petit livre sur cette expérience de cyberactiviste et j'ai dédié le livre à ma maladie qui m'a beaucoup appris. Je pense que cette expérience m'a ouvert les yeux tout d'abord sur la situation en Tunisie, parce que j'ai vécu pendant quelque temps dans les hôpitaux tunisiens et j'ai découvert la souffrance que les malades vivaient à cause du manque des moyens, de l'état des hôpitaux et tout ça. Et en plus, cette maladie m'a appris à être patiente, m'a appris à persévérer et tout ça. Donc oui, cette maladie a joué un rôle très très important dans ma vie. Mais c'est aussi lié à ma famille. Mon père est un ex-prisonnier politique et j'ai grandi dans un environnement très très engagé en faveur des droits humains, de la liberté, de la justice.
Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, vous personnellement, par rapport à votre santé et par rapport à votre pays aussi, par rapport à ce qu'il devient ?
Par rapport à ma santé, là, j'essaye de me préserver pour continuer le chemin. Quand il s'agit de mon pays, malgré la situation difficile que nous vivons maintenant, malgré ces tentatives des forces rétrogrades et des anciens du régime pour reprendre le pouvoir, je reste très optimiste parce que je vois beaucoup de jeunes et de femmes qui luttent pour le pays, qui défient ces forces rétrogrades et voilà, qui font beaucoup de sacrifices pour changer les choses. Moi, je lis l'histoire et je sais qu'on ne peut pas changer les choses en quelques années. Ça demande du temps, il faut patienter. Même si on a eu des attaques terroristes, même si la situation économique est vraiment très difficile en ce moment, mais voilà, il faut garder l'espoir et continuer le chemin vers les buts que nous avons mis quand on a commencé la révolution.
Un des objectifs, est-ce que ce serait, et est-ce que c'est quelque chose qui est possible, un procès éventuellement de Ben Ali, la famille Ben Ali ?
J'espère voir ça. Malheureusement, on a lutté pendant 2 années contre la loi de la réconciliation qui garantit l'impunité aux anciens du régime. Malheureusement, après 2 années de lutte contre cette loi, ils ont réussi à la faire passer, mais on a quand même réussi à c'était une loi avec plus de 20 articles et tout ça, elle est passée avec 7 articles et on a écarté certains des personnes qui étaient vraiment impliquées avec le régime. Maintenant c'est au niveau de l'administration qu'on a garanti cette réconciliation, donc pour les anciens de l'administration corrompus, mais voilà, moi, je pense pas qu'on va vraiment réussir à avoir le procès de Ben Ali, surtout que ses ministres et ses sbires qui vivent encore en Tunisie ont échappé au procès. Jusqu'à aujourd'hui, la justice en Tunisie n'est pas vraiment très indépendante, donc ça sera un peu difficile d'avoir ce genre de procès. Mais moi, je rêve de voir ça. Et je vois des gens qui se battent pour ça. Et j'ai parlé surtout de ces mouvements horizontaux de jeunes.
C'est presque la fin de ce programme en français de Radio Prague. On se quitte comme tous les jours en musique avec notre concours La chanson du siècle. Aujourd'hui, nous continuons avec l'année 1959 et la polka intitulée Pod jedną strzechą, sous un même toit.
La chanson du siècle.
Outre les noms désormais établis et adorés de la musique populaire, tels que Karel Vacek, Jaromír Vejvoda, Josef Poncar et Antonín Borovička, les années 1950 ont vu arriver une nouvelle étoile de la musique d'orchestre d'harmonie, Karel Waldauf. Son succès semblait considérable et sans limite, car Karel Waldauf savait séduire non seulement un large public, mais également les fonctionnaires qui, à l'époque, s'intéressaient de près à la collectivisation des campagnes et à l'exode rural des jeunes. À la fin des années 50, la nouvelle polka de Karel Waldauf est donc devenue un véritable tube, vraisemblablement grâce à ses paroles décrivant l'histoire simple et universelle d'une enfance passée côte à côte sur les bancs de l'école, se transformant en amour de jeunesse, puis par la suite en déception amoureuse. Karel Waldauf et son parolier Ladislav Jacura connaissaient et respectaient les goûts et les intérêts de leur public, composé majoritairement de personnes qui ont grandi hors des villes. Aujourd'hui encore, la polka chantée Pod jedną strzechą, sous un même toit, évoquait certainement de beaux souvenirs à certains. Et à ceux qui, à son écoute, auraient tendance à hausser les épaules avec mépris, nous rappellerons que plus de 150 000 disques ont été vendus dans les années 50 et 60 et que la popularité de certaines chansons tchèques semble bel et bien résister au temps.
vás zazvonil, a do školy tě doprovodil.
Já to vím, že jsi byl už tenkrát kavalír.
Tam ve škole v jedné lavici pročítali jsme učebnici.
A když úkol jsme obsali, po škole jsme oba zůstali. Jednou střechou jsme mládí prožili. Ráno co ráno do školy chodili. Když nám bylo 20 let, dvou lásku jsem si přál. Já jsem se vzal
na vojnu rukou dál.
Když nám bylo 20 let, dvou lásku jsem si přál. Dvou lásky jsem si přál.